sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute maison, c'est un seul sujet, trois intervenants réunis par une connexion pas toujours excellente, mais avec un désir identique de participer au débat critique sur des objets artistiques disponibles facilement depuis chez soi. Avec moi, Zoé Sfez et Lucille Como pour parler ensemble de La Mélancolie des Dragons, un spectacle dont Philippe Ken a assuré la conception, la scénographie et la mise en scène. Spectacle qui a été créé en 2008 et qui a depuis beaucoup voyagé de par le monde. Il est actuellement disponible en ligne sur Vimeo. Au début du spectacle, une voiture arrêtée dans un paysage de neige, une remorque qui est attachée. La lumière intérieure s'allume en même temps que retentissent les premiers accords d'une chanson de hard rock. On découvre quatre hommes, cheveux très longs, qui discutent, qui boivent des bières, en se passant un paquet de chips. Il y a deux chiens aussi avec eux. Le morceau s'arrête, aussitôt suivi d'une autre intro, chanson coupée, une autre, ainsi de suite. AC/DC, Trust, les standards s'enchaînent, et puis tout à coup, une musique de Moyen-Âge, de chevalerie, puis une musique de western, mais aussi Mélancolie de C. Jérôme, avant de repartir dans le hard rock et d'enchaîner avec Hervé Christiani, Il est libre Max, suivi de Still Loving You de Scorpion. Et là, nos chevaliers des temps modernes s'endorment dans la voiture alors qu'une silhouette s'approche dans la neige, elle toque au pare-brise, ils sortent, ils s'embrassent. Un cinquième homme sort de la remorque, puis un sixième, puis un septième. L'un d'eux soulève le capot de la voiture, signifiant par ses gestes qu'elle est en panne, de la fumée va s'en échapper. La nouvelle venue en sort différentes pièces, finit par entrer dans le moteur toujours fumant. La femme va sortir son téléphone et appeler et demander « Michael, tu aurais une tête de Delco ?» Alors si j'ai pris le temps de décrire le début de La Mélancolie des Dragons, c'est d'abord parce qu'il se passe quand même 15 minutes avant cette première prise de parole sur un spectacle d'un peu moins d'1h20 et que cette introduction est, me semble-t-il, programmatique. On va en parler ensemble. Mes premiers avis synthétiques sur ce spectacle, Lucille Como.
Ouais, c'est intelligent, c'est beau, c'est une petite merveille.
Zoé Sfez.
J'allais dire la même chose. En fait, c'est une invitation à redécouvrir l'émerveillement, véritablement.
Lucille Como, pour développer.
Oui, bah vous avez parlé de cette playlist, vous l'avez même énuméré, Arnaud, qu'on entend au début, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le traitement musical, parce que vous l'avez dit, au début, c'est assez étrange comme dispositif, la voiture est fermée, on les voit ouvrir un paquet de chips, ouvrir des bières, mais ça, on ne l'entend pas. On entend seulement la musique, comme si nous, on était à l'intérieur de la voiture. Et dans cette sélection entre ce qu'on entend et ce qu'on n'entend pas, donc ce qui est intradiégétique, extradiégétique, il y a un jeu assez cinématographique sur à la fois la réalité, le contexte naturel d'une voiture en panne dans la neige, dans la forêt, et l'artifice qui devient très très vite en fait la forme du spectacle, puisque ces sept mercenaires dont vous avez parlé, ils sont là pour installer un parc d'attractions. Donc eux appellent ça au départ un parc d'attractions. On va vite se rendre compte que c'est un spectacle, en fait, que c'est une installation, même ils le disent assez rapidement. Et on va rester toujours dans cette ambivalence qui fait penser, et c'est pour ça que je disais c'est très intelligent, qui fait penser avec une acuité particulière les mécanismes de la représentation. C'est-à-dire que oui, on est sur une scène, oui, ils sont dans un théâtre, ils le disent, hein, on est là, on est en train de s'installer dans un théâtre. La neige, c'est de la fausse neige, on peut la soulever, on peut sortir un canon à neige, mais cependant, on fait quand même du ski, on a quand même des gros blousons comme s'il faisait froid, et tout ça se maintient, cette ambivalence se maintient tout au long du spectacle. Et bon, c'est peut-être, je vais m'arrêter là, la première chose, il y a quelque chose de vertigineux dans l'équilibre entre artifice et narration, parce que après tout, on est quand même avec des personnages qui sont tombés en panne dans la neige. C'est assez remarquable en 1h15 de tenir quelque chose d'aussi intelligent d'un point de vue, disons, théorique. Et après, je reviendrai sur le plaisir pur que c'est de comique, notamment.
Zoé Sfez.
En fait, c'est un spectacle qui nous parle de qu'est-ce que c'est évidemment la représentation, c'est de la lanterne magique, c'est-à-dire jouer sur la pauvreté des moyens et leur potentiel ridicule pour nous refaire regarder des éléments extrêmement simples, extrêmement bêtes et nous réinviter à s'émerveiller de ces éléments. D'ailleurs, ils le disent aussi, le projet est effectivement décrit par les personnages eux-mêmes. J'ai un moment donné dans cette remorque, après avoir essayé de réparer cette voiture dont on comprend qu'elle ne sera pas réparée, les personnages dévoilent ce qu'ils ont dans leur remorque, qui est donc des prémices d'un parc d'attraction. L'ambition est démesurée et elle est comique et en même temps elle est sublime. Et on a quatre perruques, sachant que nos personnages eux-mêmes portent des perruques, ce qui leur donne évidemment un caractère très clownesque. Donc on les retrouve comme des espèces de fantômes. On nous explique que c'est accroché avec du scotch. Et d'ailleurs, l'un des personnages dit « tout est là ». Et effectivement, tout est là. C'est-à-dire qu'on est sur une scène de théâtre national, de scène nationale. Il y a effectivement un très beau décor extrêmement cinématographique, avec des arbres, avec de la neige, avec ces chiens qu'on ne maîtrise pas, mais qui participent vraiment du spectacle. Et en même temps, tout est là. C'est-à-dire que tout va se jouer sur des toutes petites choses qu'on va nous faire jouer une première fois, puis une deuxième fois, qu'on va nous annoncer, jusqu'à épuiser finalement l'effet qu'ils peuvent produire en nous, une machine à bulles, une machine à fumer. Et finalement, on se retrouve à la fois surpris et à rire à la pauvreté de ses moyens et à la fois toujours ébloui par leur magie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'impression qu'on a épuisé la magie de l'objet que ces six personnages activent dans une pauvreté aussi de dialogue assez sidérante, on est toujours à nouveau surpris, à nouveau embarqué et ça ne s'arrête jamais.
Bon, je partage évidemment beaucoup de vos remarques sur cette mélancolie des dragons. Je dois quand même dire, et vous l'avez déjà évoqué, que c'est un des spectacles les plus furieusement drôles que j'ai vu de ma vie au théâtre. Alors, je l'ai vu 3 fois en vrai au fil des années, c'est pour dire. Mais comme vous l'avez dit l'une et l'autre, donner à voir, c'est vraiment la dimension essentielle de ce spectacle. Alors, on sait que les garçons aiment épater les filles. Et là, on a quand même ces personnages qui n'échappent pas à ce désir très masculin, puisqu'ils mettent quand même chacun en place un véritable ballet autour du seul personnage féminin, Isabelle. Isabelle, ils n'arrêtent pas d'appeler Isabelle. Ce qui a aussi, bon, évidemment, pour effet de mettre en scène la mise en scène, de faire le spectacle avec ce qui produit le spectacle. Mais pour ajouter peut-être une autre dimension, c'est la question du temps. On a dit que c'était un spectacle très court. Et pourtant, chaque moment prend son temps, un temps juste qui est ici un temps étiré, comme à un moment, par exemple, il y a ce grand ballon gonflable blanc dont les garçons vont montrer toutes les possibilités d'usage, sachant que le théâtre de Philippe Ken, depuis toujours, et depuis aussi cette Mélancolie des Dragons, c'est un théâtre d'objets, mais qui sont des objets, souvent inattendus, souvent insensés, dérisoires, dont il tord la possibilité d'usage pour l'amener tout à fait ailleurs, donnant aussi, et c'est une des qualités des spectacles de Philippe Ken, des images très belles aussi, parce qu'il y a à la fois ce rire, vraiment de fou rire, comme on en a rarement dans les salles, et en même temps, il y a des moments d'une intense beauté plastique. Lucille Como ?
Oui, c'est un rire qui évolue, c'est-à-dire qu'au début, c'est un rire qui peut paraître être un rire qui se joue aux dépens de ces personnages. Ils disent, voilà, on sait faire tout un tas de trucs, mais ils nous sortent un tube d'air dans une bassine d'eau en plastique pour faire une petite fontaine. Et ça évolue. En fait, on se rend compte qu'on ne peut non seulement pas les mépriser, mais qu'admirer leurs œuvres d'art à eux, ce qu'eux nous proposent sur scène, avec juste ce ventilateur, juste cette machine à bulles. Et nous-mêmes, on se prend à se retrouver au premier degré comme Isabelle, c'est-à-dire on est Isabelle au bout d'un moment dans le spectacle. Et ça, je trouve ça intéressant même sur ce que ça dit. Bon, je parlais de théâtre et de la représentation, mais aussi de ce que ça dit de la réception d'une installation dite d'art contemporain. C'est-à-dire qu'on nous demande, a priori, dans le cliché de la réception de l'art contemporain, on est censé mettre en contexte, mettre à distance, faire rentrer dans un circuit de référence, enfin, toujours avoir une forme de réception au second degré. Et là, on fait le chemin exactement inverse. C'est-à-dire que dans un premier temps, on est dans une relation de distance face aux artistes qu'ils sont et face à ce qu'ils nous proposent comme forme d'art. Et on se prend finalement à être dans une pure adhésion empirique. Et le tableau final est sublime. Mais au sens premier, c'est-à-dire que là, on rit plus du tout. On est juste complètement scotché par la beauté plastique de ce que ces personnages-là, parce que ça reste eux, nous proposent.
Zoé Sfez.
Oui, alors je suis tout à fait Lucille Como. Et effectivement, dans ce que vous disiez sur le rapport au temps, il y a aussi une évolution du rire dans le sens où ce spectacle s'appelle La Mélancolie des Dragons. Et ce qui est assez frappant, c'est que pour moi, on pourrait parler aussi surtout de nostalgie, puisqu'évidemment, il y a des figures qui sont des figures vieillottes. Quand le spectacle a été créé, on était en 2008. On a ces rockers qui se situent quelque part entre les années 80 et les années 90. Il y a l'évocation de cette musique qui nous embarque véritablement. Vous avez évoqué les musiques de western, mais il y a clairement, on est le générique de La Petite Maison dans la Prairie, qui fatalement joue sur cette corde de la nostalgie. Il y a une petite bibliothèque qui, à un moment donné, disposée, qui fait partie du dispositif, où là, on rejoint cette question que vous évoquiez, Lucille Como, la question des références, avec des toiles de Dürer, des toiles différentes qui nous sont proposées. Mais globalement, il y a aussi cette nostalgie qu'on peut avoir, nous, en tant que spectateurs, à voir se rejouer cette atmosphère de feu de camp, des spectacles qu'on faisait quand on était petits avec nos parents, avec littéralement rien. Et tout ça, véritablement, boucle un rire qui est à la fois celui que eux nous proposent, qui est parfois extrêmement référencé et qui est parfois extrêmement simple et au plus proche d'une logique qui est véritablement la nôtre.
Extrait. J'ai retrouvé dans mes archives cette phrase de Philip Ken qui figurait dans le programme de Salle. Les hommes qui ont voulu sauver le monde se sont souvent laissés pousser les cheveux. Mis à part le fait que c'est ce qui m'a contraint à revoir mes ambitions personnelles à la baisse, c'est un constat qui en dit long aussi sur la façon qu'a Philip Ken de regarder le monde et le fait qu'il développe dans ce spectacle l'idée que le hard rock serait un héritier de la chevalerie. Moi, c'est un projet qui déjà me séduit absolument. On se dira aussi que ce groupe de hard rock ou de hard rockeux et Isabelle, vous parlez des sept mercenaires. Moi, je pensais plutôt à Blanche-Neige et les sept nains. Il y a aussi cette volonté d'accaparer la princesse ou la belle, de la tirer dans ses raies. Donc, il y a comme ça beaucoup de lectures possibles, et je pense que les petits-enfants verront peut-être plus Blanche-Neige et les sept nains, les plus grands ou les plus amateurs de western, les sept mercenaires. Mais il y a tout un tas de couches qui sont à la fois ostensibles, mais pas du tout imposées. Donc, c'est un équilibre qui est quand même, me semble-t-il, propre à l'exercice du théâtre tel que Philip Ken le conçoit. Lucille Comeau.
Oui, tout à fait. On entend d'ailleurs un extrait de la bande originale de Blanche-Neige de Disney à un moment donné. Sur le montage musical et sur ce que vous venez de dire sur les personnages chevelus, moi, j'ai beaucoup pensé, surtout au début, à Vernon Subutex, au roman de Virginie Despentes, dans la manière dont elle installe ce groupe, cette bande qui se retrouve en plus. Donc, il y a dans La Mélancolie des Dragons, il y a aussi cette idée de gens qui se retrouvent ensemble, qui ont été amis et qui se retrouvent après peut-être plusieurs années, donc les cheveux ont poussé. Et dans l'utilisation de la musique aussi, c'est-à-dire que la musique fait non seulement partie de la vie, mais elle influence absolument tout, depuis l'évolution de leur parc jusqu'à la narration même sur la scène. Et on y trouve à la fois ce qui peut être inquiétant, à la fois ce qui peut provoquer de l'empathie chez le spectateur. Il y a quelque chose presque de l'ordre de la transe dans le spectacle, de ce que ça crée, cette playlist omniprésente jusqu'à la fin. Et j'ai été assez sensible, et vraiment j'ai retrouvé ce que j'aime le plus dans Vernon Subutex. L'effet de bande, ces personnages qui ont l'air d'être un peu clownesques et qui en fait sont tellement sérieux dans leur projet, y compris leur projet musical, que même leur reprise à la flûte à bec, eh ben, c'est beau.
Zoé Sfès, pour conclure cette dispute maison.
Bah, je suis d'accord avec vous, il y a à la fois quelque chose vraiment très clairement des Monty Python, la quête du Saint Graal au moment de la chorégraphie, cette très belle chorégraphie sur cette musique médiévale où on porte une bâche soufflée, c'est d'une bêtise inouïe et pourtant c'est fait effectivement avec le plus grand sérieux. Et quelque chose de romérien aussi. Je pense que c'est un spectacle qu'il est très agréable de revoir en ce moment, dans ces temps à la fois troublés et de canicule. D'ailleurs, ils le disent, c'est de la fausse neige, ils ont un canon à neige évidemment. On peut créer l'hiver en plein été, donc ça fait partie des grandes joies. Et je pense que c'est un spectacle qui est très intéressant et qui dit aussi quelque chose, vous parliez de Philippe Ken, du projet qu'on peut avoir pour des scènes nationales. C'est un projet à la fois extrêmement fouillé, si on veut y voir des lectures profondes, on peut y aller, et c'est à la fois un spectacle qui effectivement peut être vu littéralement par tout le monde, et c'est un très très beau projet de ce que peut produire une scène nationale.
Merci Lucille Comeau et merci à vous Zoé Sfez. La Mélancolie des Dragons de Philippe Ken est visible en ligne sur Vimeo. C'était La Dernière Dispute Maison, un programme rendu possible grâce à Issa Tundoy, Lucille Comeau, Boris Pinault et Lola Schindler, réalisé par Alexandre Fougeron. Et encore une fois, un grand merci à toute l'équipe du web de France Culture pour la mise en ligne de ce programme.